Fouquier-Tinville par le docteur Cabanès. Une salle vaste, éclairée d'une grande fenêtre sur chaque côté, au fond, sur un papier moucheté, trois bustes au mur, Brutus, Marat, Le Pelletier. Deux quinquets à hauteur d'appui. Au-dessous du Brutus, le président devant une table, l'accusateur public à sa gauche, trois juges à sa droite, tous cinq en chapeau à plumes. Au-dessous du président, le greffier. Du côté de l'accusateur public, deux grandes tables parallèles soutenues par des sphinx ailés portant des carafes et des verres. Aux deux tables, les jurés. En face, une autre table, pareille, où se tient le défenseur. Derrière le défenseur, des gradins à six échelons pour les accusés, et en haut, un fauteuil pour l'accusé principal. Dans l'hémicycle, de 2 degrés plus bas que la salle, les huissiers assis sur des bancs, et faisant face au président, le public. C'est le tribunal criminel révolutionnaire, établi au Palais, à Paris, par la loi du 10 mars 1793, pour juger sans appel les conspirateurs, essayant salle de la liberté ou de l'égalité. Ces lignes des Goncourt, historiens trop méconnus, chez qui le pittoresque ne nuit en rien à l'exactitude, nous restituent en termes précis le décor dans lequel va se mouvoir le personnage dont nous allons tenter d'esquisser l'impassible silhouette. Une estampe bien connue de l'époque révolutionnaire représente le jugement de Marie-Antoinette. On a eu l'idée d'en détacher, en l'agrandissant, le portrait de l'accusateur public, le trop fameux Fouquier-Tinville. Il nous est représenté coiffé du chapeau à plumes, vêtu d'une sorte de houppelande, avec devant lui les dossiers que sa main droite fiévreusement manipule. Le front, bas, est à peine apparent. Les sourcils sont fortement arqués. Les yeux, petits et singulièrement expressifs. Le nez, légèrement busqué, aux ailes minces et comme coupantes. Le pli de la lèvre, dédaigneux. Le menton, têtu, obstiné. Les cheveux, longs, couvrent le col de la capote. Un contemporain nous révèle que ceux-ci, comme les sourcils, étaient très fournis et noirs. Le teint était généralement blême. Le nez portait les marques de la petite vérole. Il était grêlé. Dans l'ensemble, c'était plutôt un bel homme avec les épaules carrées et les jambes fortes. Fouquier-Tinville avait 46 ans lorsqu'il fut désigné par les électeurs dans 32 sections comme l'un des directeurs du jury d'accusation. Né à Hérouël, près de Saint-Quentin, le 10 juin 1746, il appartenait à une famille honorable. Son père, qu'il perdit à 13 ans, était un cultivateur du Vermandois, possesseur d'une fortune assez considérable, si l'on en juge par l'acte de succession qui énumère, une maison d'habitation, longue de 65 pieds sur 26 de large, avec son colombier, son moulin à vent et ses vastes dépendances, une ferme importante, en façade sur la grande rue, mitoyenne à l'église du village, et le bétail qu'elle contenait, à savoir 6 vaches grasses, 80 brebis, chacune avec leur agneau, 35 chevaux, truies, béliers, cochons de lait. Mieux qu'aucun commentaire, cette pièce notariée dans sa sécheresse dit l'aisance des parents du futur magistrat de la terreur. Sa famille le destinait au barreau. Après de fortes études classiques, il était surtout très nourri de latinité. Le jeune Fouquier entrait à 20 ans, en qualité de clerc, chez un procureur au Châtelet, maître Cornillier, dont il devait plus tard acquérir la charge. Après avoir prêté le serment d'usage, il fut mis en possession de l'office, dont il était reconnu le légitime possesseur, moyennant la somme de 32 400 livres, dont les deux tiers payés comptant. L'étude était située rue du Foin Saint-Jacques, qui commençait rue Saint-Jacques, pour se terminer rue de la Harpe. Cette rue fut supprimée par décret du 11 août 1855. Cette étude était fort achalandée. Elle avait une clientèle de petits bourgeois, de marchands, d'artisans et de commerçants. Beaucoup de vignerons des environs de Paris lui confiaient leurs affaires ainsi que nombre d'établissements religieux. On savait d'ailleurs que le nouveau titulaire était rompu à la pratique des affaires et aux subtilités de la chicane, ce qui n'était pas pour le desservir. Le 19 octobre 1775, Fouquier-Tinville épousait, en l'église paroissiale de Notre-Dame du Mont-Saint-Martin, au diocèse de Cambrai, sa cousine, Dorothée Saunier. En raison de cette parenté, il fallut un bref papal pour autoriser cette union. Il fut, du reste, facilement accordé. L'épouse était une de ces jeunes filles de la bourgeoisie qui mènent, jusqu'à leur mariage, une existence effacée et se contentent après d'être de bonnes ménagères et d'irréprochables mères de famille. Pendant les 7 ans que dura leur union, aucun nuage ne vint la troubler. Madame Fouquier donna naissance à un fils, puis 4 filles. 3 mois après la naissance de son dernier enfant, elle succombait, âgée seulement de 28 ans. Qu'allait devenir, dans son isolement et avec 4 fillettes encore en nourrice, le malheureux veuf? Sa détermination fut bientôt prise. 5 mois après la mort de sa femme, il entrait en relation avec une dame Gérard d'Aucourt, dont le mari, originaire du Limousin, était mort 3 ans auparavant. Cette dame d'Aucourt avait une fille, encore mineure, dont on vantait la douceur et la bonté, et qui, sans être jolie, avait l'œil assez fin, le front haut et intelligent. Fouquier demanda sa main et fut agréé sans difficulté. Moins d'un an plus tard, il se débarrassait de sa charge, on ne sait trop pour quel motif. Après l'avoir réalisé, il se trouva, grâce aux dots de ses 2 femmes et l'argent qu'il avait gagné dans l'exercice de sa profession, possesseur d'une somme d'à peu près 150 000 livres, qui représentait en ce temps une fortune. Comment arriva-t-il à la dilapider, jusqu'à tomber dans une situation précaire? Toujours est-il qu'il sollicitait dès avril 1791 une des 2 places de secrétaire greffier au tribunal de cassation qui venait d'être créé. Mais malgré les recommandations et apostilles dont était accompagnée sa demande, on ne lui fit pas droit et il dut attendre une occasion plus favorable qui se présenta l'année suivante. La loi du 10 août 1792 venait de créer le jury d'accusation au nouveau tribunal criminel. Fouquier sollicita de son cousin, Camille Desmoulins, nommé depuis peu secrétaire général du ministère de la Justice, la place de l'un des directeurs du jury d'accusation. 5 jours après, il était appelé à remplir ce poste, dont il devait remercier, à 18 mois de là, son protecteur, en l'envoyant à l'échafaud. Fouquier ne remplit que 3 mois ses fonctions de directeur du jury d'accusation. Il n'est qu'une condamnation de quelque importance qu'on retienne à son actif, celle de Nicolas Cazotte, vieillard de 73 ans, une première fois épargné grâce au dévouement de sa fille, et retenu la 2e fois par l'accusation pour une prétendue correspondance avec des contre-révolutionnaires. Fouquier-Tinville fut pitoyable à sa manière. Il fit consigner, dans une pièce de la conciergerie, la fille de l'accusé jusqu'après l'exécution. Il lui épargna ainsi l'horreur du terrible spectacle. Au mois de janvier 1793, Fouquier était nommé substitut de l'accusateur public du tribunal criminel du département de Paris. Le mois suivant, il apprenait qu'on l'avait choisi pour remplir le poste de substitut du procureur de la commune, mais il déclara qu'il conserverait les fonctions qui lui avaient été primitivement attribuées et qu'il jugeait plus conforme à son ambition et à ses goûts. Dans les premiers temps, on s'accorde à reconnaître qu'il est avant tout soucieux de se conformer à la légalité. On lui reproche néanmoins d'accepter toutes les dépositions, quelle qu'en soit l'origine, et sans en discuter la valeur. Il n'a aucun égard à la situation du prévenu. Inflexible serviteur de la loi, il requiert contre tous ceux qui lui sont signalés comme suspects, mais il se montre particulièrement sévère contre les ivrognes et les fous. À part les francs, ce n'est pas le délit d'ivresse qu'il poursuit, mais il est d'avis que l'ivresse n'est pas une excuse. « Un républicain dans l'ivresse, énonce-t-il dans un de ses réquisitoires, n'a jamais demandé un roi. Mais il n'est pas étonnant qu'un royaliste, masqué d'un républicain, laisse, dans le désordre de l'ivresse, échapper son secret. » Un jour, un officier municipal ramasse dans la rue une ivrognesse qui s'écrie qu'elle ne souffrirait pas qu'on coupe à la tête au fils comme au père. Elle entendait parler du dauphin enfermé au temple et de Louis XVI. Conduite au corps de garde, elle continue à prononcer des paroles plus ou moins incohérentes où régnait, dit Fouquier, le désordre de l'ivresse. Le terrible procureur n'hésita pas à requérir contre cette malheureuse la peine de mort pour avoir méchamment et à dessein, dans des cafés et au corps de garde, publiquement tenu des propos tendant à provoquer le meurtre, la dissolution de la représentation nationale et le rétablissement de la royauté en France. En dépit des témoignages qui lui étaient tous favorables, cette fille du peuple fut condamnée à mort et exécutée. On a souvent répété que Fouquier-Tinville fut le strict observateur des lois et décrets rendus par la Convention ou par les comités de sûreté générale et de salut public. Parfois, il a fait montre d'un zèle véritablement excessif. Voici des faits. Ils sont par eux-mêmes assez éloquents pour nous dispenser de les commenter. La veuve d'un colonel comparaît devant le tribunal révolutionnaire. Dans le but d'obtenir un sursis, elle se déclare en état de grossesse. On ordonne son transfert à l'hospice de l'évêché, où les officiers de santé l'examinent. Elle est reconnue enceinte de 4 mois. Quelques jours après, elle fait une fausse couche. Fouquier requiert contre l'infortunée et réclame l'exécution du jugement prononcé contre elle lors de sa première comparution. La veuve Quétineau est le même jour envoyée au supplice. Le cas d'une dame Lavergne n'est pas moins impressionnant. Son mari, lieutenant-colonel, commandant militaire de Longwy, a été condamné sous le prétexte d'avoir livré cette citadelle à l'ennemi. Bien qu'âgé et très malade, il n'est tenu aucun compte de son état. En vain, sa jeune femme, elle n'a que 26 ans, a imploré tous les personnages influents qu'on lui a signalés comme disposant du sort de son époux. Partout, elle est accueillie sur un ton narquois. Comment, lui insinue-t-on, ne serait-elle pas heureuse d'être débarrassée d'un mari cacochi mais âgé, qui ne peut plus lui donner de satisfaction, on devine de quelle nature. Elle assiste, malgré tout, jusqu'au bout, celui à qui elle a voué sa vie. L'audience s'ouvre. On apporte l'accusé sur un matelas. Il est moribond. Tout à coup, un cri s'élève de la foule, un cri de « Vive le roi !» répété avec insistance. On s'empare de la coupable, qui se contente de répondre aux gendarmes qui la saisissent, qu'elle veut être guillotinée parce qu'on va assassiner son mari. On fait droit à sa requête. Elle monte sur l'échafaud quelques heures à peine après l'homme à qui elle s'est sacrifiée jusqu'à la mort. Fouquier a jugé que le délit était suffisant. S'il n'a pas personnellement requis dans cette affaire, il a signé l'acte d'accusation. Il a même ajouté en marge des annotations, des précisions. Vient la loi de Prairial, votée en grande partie à l'instigation et sur l'insistance de l'accusateur public. Toutes les garanties de la défense sont désormais abolies. L'interrogatoire, réduit à sa plus simple expression, les témoins, supprimés ou presque, ont mis brusquement fin au débat en déclarant que la religion du jury est suffisamment éclairée. La besogne de Fouquier va-t-elle s'en trouver allégée? Tout au contraire. Le nombre des conspirateurs augmente sans cesse. Les dénonciations pleuvent sans arrêt. Une augmentation notable du personnel ne remédie qu'en partie au surcroît de besogne qui incombe à l'impitoyable réquisiteur. Cela suffit-il cependant à excuser des erreurs monstrueuses comme celle-ci? Le premier Thermidor, le 19 juillet 1794, 3 générations d'une même famille occupent les gradins du tribunal révolutionnaire. Parmi les inculpés se trouve un jeune homme de 17 ans, mais c'est son père âgé de 60 ans que vise l'acte d'accusation. Donc, pas de confusion possible. Or, le document accusateur est rédigé si légèrement que c'est le fils qui est condamné à la place du père. Sans cesse, Fouquier se plaint d'être surmené, débordé, de manquer d'auxiliaires. Il n'a plus le temps de s'occuper de toutes les affaires, de contrôler même les rapports de ses moutons, les agents provocateurs chargés de lui fournir sa provende journalière. Tout cela est vraisemblable, mais est-ce une justification suffisante? Nos lecteurs fourniront eux-mêmes la réponse. Le vrai est que le sinistre procureur ne s'embarrasse d'aucun sentiment de pitié. D'un caractère dur et emporté, il se montre intraitable dans l'exécution de son mandat. N'a-t-on pas prétendu qu'il était parfois pris de vin, et qu'alors il ne se connaissait plus? Est-ce dans un pareil moment qu'il commit des infamies comme la suivante? Certains jours, il charge un de ses émissaires d'aller chercher dans une prison la ci-devant duchesse de Biron. On lui représente qu'il y a 2 femmes portant ce nom et ce titre. « Eh bien, réplique Fouquier, qu'on les amène, elles y passeront toutes 2 ». Un autre jour, il décerne un mandat d'arrêt contre un comte ou un vicomte de Castellane. On lui fait observer qu'il y a en réalité deux Castellane, l'un portant le titre de comte, l'autre celui de vicomte. Fouquier donne l'ordre d'arrêter quiconque porte le nom de Castellane. Tout le tribunal, greffier, huissier, fonctionnaire, subalterne, tremble devant lui, devant son despotisme grandissant et ses menaces continuelles. Mais c'est lorsqu'il est sous l'influence de la boisson qu'il est le plus redoutable. Comme il arrivait peu de jours qu'à son dîner il ne fût pris de vin, dépose à son procès un de ceux qui l'approchent, c'était dans cet état qu'il venait au bureau des huissiers, plus souvent qu'ailleurs, exhaler avec fureur les vapeurs qui étaient montées à son cerveau pendant son dîner. Néanmoins, à jeun, il se livrait également aux mêmes emportements. Souvent, il emploie ces cinq mots, tranchant comme un couperet « Il faut que cela aille ». Cela signifiait que tous les jours, Dame Guillotine, comme le Minotaure antique, réclamait sa proie. L'accusé voulait-il se défendre, on lui coupait la parole. Jugement, condamnation étaient préparés d'avance. De même, les charrettes pour l'exécution. Fouquier s'arrangeait toujours pour qu'elle ne repartisse pas à vide. Et il accomplissait sa besogne froidement, sans que tressaillît un pli de son visage. Tantôt en se curant les dents, tantôt en se frottant les mains, il s'écriait « Ah, nous en déculotterons une bonne quantité cette décade !» La vie humaine n'avait aucun prix à ses yeux. À qui protestait contre cette frénésie sanguinaire ? N'est-ce pas, répondait Fouquier, le meilleur moyen de vider les prisons ? Les choses n'iront jamais bien tant qu'on n'en guillotinera pas une centaine par jour. Une autre fois, comme on s'étonnait de sa précipitation à brusquer les débats, « Vous ne voyez donc pas où je veux en venir ? Je veux amener le tribunal à se passer de témoins. » L'heure de la justice immanente n'allait pas tarder à sonner. Dans l'après-midi du 14 Thermidor, 5 jours après la chute de Robespierre, Fouquier était à la buvette du tribunal, s'entretenant des événements du jour, lorsque deux de ses séides viennent lui apprendre qu'il est décrété d'accusation. Il ne se montre pas le moins du monde ému, il affecte même un air d'indifférence. « Je suis bien tranquille, je ne suis pas coupable, j'attends qu'on vienne m'arrêter. » Et il part, rassurer sa femme, que ses bruits ont pu émouvoir. Il était bientôt de retour au palais et se constituait volontairement prisonnier à la conciergerie. Ce fut presque une émeute, dès qu'on apprit qu'il était là. Les gardiens eurent beaucoup de peine à le défendre contre la fureur des autres détenus. À son tour, il allait paraître devant ce tribunal où il avait si souvent figuré dans le rôle d'accusateur. Reconnaissons qu'il se défendit admirablement, avec une dialectique, une promptitude à la réplique, une habileté à esquiver les interrogations gênantes, qui révélaient un procédurier consommé. Ce qu'il convient de ne pas omettre, c'est que les garanties de la défense furent respectées dans son procès, comme jamais lui-même ne les avait observées. Les débats ne durèrent pas moins d'un mois et 9 jours. Ils se terminèrent par une condamnation à mort, prononcée à l'unanimité, 11 voix sur 11 votants. Sa défense pourrait se résumer en cette phrase « Je n'ai fait qu'exécuter des ordres ». Mais toutes les pièces de son procès sont là, qui démentent cette assertion. Ses erreurs, ses légèretés, qui ont envoyé à la guillotine tant d'innocents, lui sont entièrement imputables. Et si la postérité flétrit sa mémoire, c'est pour avoir abusé de son pouvoir discrétionnaire, par peur d'être accusé de tiédeur dans l'exercice de ses terribles fonctions. Celui qui requit contre lui a porté sur Fouquier-Tinville un jugement que tout esprit impartial ne saurait manquer de contresigner. Quelque supérieures que fussent les lois révolutionnaires, vous ne deviez pas ajouter à leur cruauté. Vous deviez plutôt porter votre tête sur l'échafaud. Je ne vous rends pas responsable des jugements, mais je vous accuse d'avoir transformé des fautes ordinaires en délits contre-révolutionnaires. Toute l'argumentation spécieuse de l'accusateur public tombe devant cette ferme riposte, à laquelle nous nous serions fait scrupule de changer un mot. Ceci marque la fin de l'article Fouquier-Tinville par le docteur Cabanès.